Bonsoir mes frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni pour ces moments où nous pouvons manger. Est-ce que c'est un repas pour vous? Mais c'est bien. Nous allons lire plusieurs textes, le premier dans le psaume 34, le verset 12, pour introduire peut-être même une série d'exhortations sur la compréhension de la crainte de l'Éternel. Beaucoup de chrétiens passent à côté de la bénédiction de Dieu parce qu'ils connaissent, en partie ils connaissent l'amour de Dieu, mais ils n'ont pas été enseignés dans la crainte de l'Éternel. Donc psaume 34, verset 12, regardez ce qui est écrit, on va voir plusieurs versets ce soir on va faire très simple, mais peut-être que les versets que je vais vous donner, vous pourriez les noter, pour vous poser la question où vous en êtes par rapport à la crainte de Dieu. Est-ce que vous l'avez compris? Alors, psaume 34, verset 12. « Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » Donc, dans ce premier texte, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons plusieurs choses. L'importance de venir dans la présence de Dieu, d'écouter, dans quel but? D'être enseigné. La crainte de Dieu, ça s'enseigne. Il y a des choses que Dieu peut nous apporter par révélation. Tiens, je me tiens dans la présence de Dieu et je reçois telle pensée. Mais ce texte en dit long sur cette affaire. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Et vous allez voir que beaucoup de chrétiens ont chuté, non pas parce qu'ils n'aimaient pas Dieu, mais parce qu'ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Vous allez voir, c'est un sujet qui est très profond dans la parole, très bien expliqué en plus, par des exemples et par des simples versets. Vous savez, il y a un pasteur très célèbre aux États-Unis qui a été emprisonné parce qu'il avait détourné l'argent de l'Église. Le procès avait été tel que cet homme avait dû faire de la prison. Et un jeune pasteur, un homme de Dieu, était bouleversé par cette affaire. Et il a demandé à aller voir ce pasteur en prison et il lui a posé la question, mais depuis quand vous avez abandonné l'amour de Dieu pour en être arrivé à détourner de l'argent de l'Église? Et le pasteur lui a répondu, mais je n'ai jamais abandonné l'amour de Dieu. Le problème, c'est que je n'ai jamais eu la crainte de l'Éternel. Et cette réponse, je trouve, explique bien que l'on peut aimer Dieu sans avoir la crainte de l'Éternel. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Je vais m'y appliquer. Je pense que l'Assemblée, nos foyers, notre Église sera gagnante si nous nous appliquons à développer cette affaire-là. Je peux nous poser la question, avons-nous la crainte de l'Éternel? Peut-être quelqu'un dira, mais moi je n'ai pas la crainte, je n'ai pas peur. Mais ce n'est pas la peur de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est un profond respect des choses du Seigneur. Un autre texte dans le livre des Proverbes. Ces textes-là, vous pouvez les reprendre pour votre culte personnel. Je ne sais pas comment vous faites votre culte personnel. Moi, je sais que quand j'ai été jeune à une époque, je reprenais les méditations du pasteur le lendemain jusqu'à la prochaine prédication et ainsi de suite. Proverbes chapitre 2, versets 1 à 7. Ça s'enseigne. Et vous allez voir que ça se comprend. Regardez bien, Proverbe 2, verset 1er. Mon fils, alors vous avez vu qu'il n'y a que des si. Les si, c'est du conditionnel, ça prouve que c'est un choix que nous faisons. Si tu reçois mes paroles. Regardez les verbes, vous pouvez les souligner pour voir tous les efforts qu'il faut fournir pour en arriver à ce qu'on va lire. Si tu reçois mes paroles. Si tu gardes avec toi mes préceptes, vous savez, c'est une chose de recevoir comme on est en train de le faire, ça n'est une autre de le garder. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Amen. Est-ce que ça vous intéresse? Ou est-ce que vous dites, ah mais non, moi je connais Dieu suffisamment, j'ai suffisamment de sagesse, c'est pas la peine. Alors, peut-être que bon, il y a quelqu'un qui est comme ça, mais imaginons qu'il y en ait d'autres qui disent, moi oui, je suis d'accord, je veux comprendre la crainte de l'Éternel. Pourquoi certains hommes de Dieu, dans la Bible, vous allez voir, n'ont pas eu la crainte de l'Éternel? Et où ça les a menés? Et ceux qui ont eu la crainte de l'Éternel, où ça les a conduits? Ça vaut vraiment la peine de comprendre. Tu comprendras, Dieu nous a donné un cœur pour faire agir notre foi, mais Dieu nous a donné un cerveau également pour que nous puissions être enseignés, pour que nous puissions comprendre et surtout trouver la connaissance de Dieu. Est-ce que vous voulez connaître Dieu davantage? Oui. Vous savez, je vous ai dit dimanche, si vous n'étiez pas là, je le redis pour ceux qui n'étaient pas là, il y a une dame qui a 40 ans de vie d'église, à qui on a posé la question, mais est-ce que vous aimeriez pas rentrer dans le repos de Dieu? Mais c'est quoi le repos de Dieu? Alors que j'ai enseigné, je ne sais combien de fois, et moi, j'ai pas du tout envie de critiquer cette personne. Mais c'est pour vous dire que les gens ne respectent pas les conditions que nous venons de lire, à savoir de recevoir, de garder, de rendre son oreille attentive. Il y a quand même une attitude de cœur à avoir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les deux seuls textes que nous venons de lire nous prouvent que Dieu veut nous enseigner. Ça passe par quelqu'un. L'apôtre Paul a enseigné. Nous recevons de l'enseignement des uns des autres. Et il n'y a rien de plus beau dans une église lorsque nous nous exhortons les uns les autres. Vous aimez exhorter vos frères et sœurs? Est-ce que vous exhortez vos frères, vos sœurs, vos enfants, vos parents, etc.? Est-ce que c'est important? Là où vous êtes, aujourd'hui vous avez discuté avec des frères, des sœurs. Oui, vous les avez exhortés, vous les avez fait du bien, ou vous vous êtes plaint? Parce qu'il y a des gens, ils font que se plaindre. Ils sont allés, ah, j'ai mal à l'épaule. J'ai mal à la tête. Bah, peut-être pas ici, parce qu'à Toulouse, on est des gens bien. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont toujours en train de se plaindre? Oui? Non? Vous ne le savez pas? Eh bien, je vous l'apprends. Ça existe. C'est dommage quand même. C'est dommage. Donc, nous sommes là pour comprendre, pour être enseignés, afin de découvrir la connaissance de Dieu. Un autre texte dans Ésaïe. Je vous donne volontairement des textes parce que je suis persuadé que le Saint-Esprit peut utiliser ces textes pour que nous puissions faire de véritables expériences. Parce qu'il y a des choses que nous ne découvrirons pas si nous ne développons pas cette affaire-là. Regardez, alors Ésaïe 66, verset 1er. Le Seigneur nous rappelle qu'il règne, il règne sur tout. Et il utilise, il y a des expressions qui sont presque drôles. Regardez, Ésaïe 66, verset 1er. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Vous voyez, le pied du Seigneur, il est grand, non? Il est grand, je ne sais pas quelle pointure ça représente. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Donc déjà, nous avons là une première indication par rapport à la crainte de Dieu. Il y a l'enseignement, il y a la compréhension, et il y a une première étape. Dieu, du haut des cieux, qui a tout créé, dit, je porterai mes regards sur quelqu'un, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Alors, l'esprit, il faut pas qu'il soit toujours abattu, mais l'esprit abattu, dans ce contexte-là, ça représente celui qui est abattu. Pourquoi? Eh bien, justement, si quelqu'un faisait que se plaindre, il va finir par avoir un esprit abattu. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il se repente. L'esprit abattu, c'est l'esprit de quelqu'un qui est malheureux parce qu'il comprend qu'il a péché. Quand vous avez commis une erreur, un manquement, une faiblesse ou un péché bien plus grave, comment vous réagissez? Est-ce que vous dites, bon, c'est pas grave? Ou est-ce que votre esprit est abattu? Si lorsque vous péchez, lorsque vous commettez une erreur, etc., votre esprit n'est pas abattu, c'est pas bon signe. La Bible dit qu'il faut se réjouir. Non, mon esprit se réjouit. Oui, mon esprit se réjouit parce que je suis sauvé. Mais de l'autre côté, Dieu porte ses regards sur celui qui a l'esprit abattu, c'est-à-dire j'ai commis un péché, il faut absolument que je le règle. Et sur celui qui craint ma parole. De toute façon, c'est très lié. Quelqu'un qui craint, qui a du respect pour la parole de Dieu, il respire cette crainte. Il nous est dit de Jésus qu'il respirera la crainte de l'Éternel. On pourrait le lire ce texte, c'est dans Ésaïe justement. Regardez comment le Saint-Esprit nous parle de Jésus. on l'a pas connu Jésus physiquement, on aurait aimé le connaître. Vous auriez aimé s'il était vivant, aller le voir? S'il était encore à Jérusalem, vous iriez le voir? Au fait, est-ce que vous demanderiez un entretien avec lui? Ah ouais, moi je tous les jours, jusqu'à ce que j'ai la rencontre, c'est sûr. Alors dans Ésaïe 11, regardez comment il nous est parlé de Jésus. C'est important, mes frères et sœurs, que nous comprenions quand vous parliez avec Jésus ce qu'il respirait. Ésaïe 11, versets 2 et 3. C'est important parce qu'il faut s'identifier. Tout disciple accompli sera comme son maître. Est-ce que ça vous importe pour vous de ressembler de plus en plus à Jésus? Ben oui, c'est important. Regardez, Ésaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Je ne sais plus dans quelle version j'ai lu. Il prendra son plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Quand j'ai préparé cette exhortation, j'ai pensé à un autre, avant sa conversion, qui respirait autre chose. Vous vous rappelez comment le Saint-Esprit nous parle de Saul de Tarse? Quand vous parliez avec Saul de Tarse avant sa conversion, il respirait le meurtre et la menace. Vous avez parlé avec des gens qui transpiraient, qui respiraient quelque chose de mauvais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous parlez avec et ça respire le mal. Eh bien, quand vous parliez avec Jésus, il respirait la crainte de l'Éternel. Que Dieu nous accorde cette grâce d'en arriver de plus en plus à cette affaire que lorsque nous nous parlons les uns les autres, nous transpirions cette crainte de l'Éternel. Vous aimeriez pas qu'on en arrive là? Non? Quand on parle avec quelqu'un, que son humilité transparaisse, son amour transparaisse, etc. Quelle grâce! Eh bien, c'est ce que Dieu veut. Il nous est dit de Jésus qui transpirait la crainte de l'Éternel. Eh bien, mes frères et sœurs, nous devons comprendre la crainte de l'Éternel. Parce que c'est pas un sujet qu'on peut aborder comme ça. On peut l'aborder en lisant que des versets, on pourrait. Ça suffirait, je pense. Mais nous devons apprendre, nous devons ouvrir les oreilles, nous devons nous réfléchir, nous devons sonder nos cœurs, nous devons nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes vraiment dans cette foi. Comme on l'a lu, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Pourquoi? Pourquoi être enseigné dans ce sujet? Parce que ça plaît à Dieu, parce que ça développe une véritable piété, et en plus, je ne sais pas s'il faut le dire de cette façon, mais c'est quand même archi intéressant. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, toutes les bénédictions qui sont rattachées à cette affaire, c'est impressionnant. On va lire quelques-unes. Il faut quand même que nous réalisions la bénédiction. Parce que des fois, on présente mal les choses. Nous, les pasteurs, on n'est pas toujours bien disposés aussi. Et on peut mal dire les choses. Mais combien je voudrais que nous comprenions tous que ce n'est pas une vieille doctrine de l'Ancien Testament. Vous allez voir que c'est une doctrine qui parcourt toute la Bible, que c'est un état d'esprit à développer pour être exaucé surtout. Parce que quand même, on veut que nos prières soient exaucées. On a envie d'être utile aux autres et d'être agréable à Dieu, puisque Dieu porte ses regards sur ceux qui le craignent. Alors, on va voir quelques versets. Je ne sais pas jusqu'où on ira ce soir, mais c'est une étude qui pourrait prendre 7, 8, 10 mardis sans problème. Alors, on va faire les choses progressivement. Regardez avec moi dans le psaume 25. Regardez quelques bénédictions. D'ailleurs, vous pouvez le faire avec votre concordance. C'est quelque chose de très facile à faire. Très facile à faire. Comprendre, oui, et être enseigné dans les bénédictions. Parce qu'il y a des... Vous savez, des fois, on dit bénis-moi. Est-ce qu'on le dit, ça, des fois, bénis-moi? Est-ce que vous le dites à Dieu? Tiens, allez, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Ben oui, bon, mais c'est pas interdit. Est-ce que David a dit à Dieu, bénis-moi? Dans les psaumes. Ben oui, c'est pas interdit. Mais ça serait dommage de demander la bénédiction à Dieu et d'avoir un comportement qui empêche ça. Ça serait dommage. Qu'est-ce que vous diriez d'un catholique qui dit « Seigneur, je vais faire des œuvres pour être sauvé, je vais faire des œuvres pour être sauvé ». Qu'est-ce que vous lui diriez? Ça sert à rien. On n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Vous comprenez ce que je veux dire? Et si c'est facile de voir certaines choses qui ne vont pas dans d'autres dénominations parce que nous, on est plus peut-être pointu sur la doctrine, c'est peut-être un petit peu plus compliqué de voir que nous avons aussi des comportements qui peuvent empêcher cette bénédiction de venir. Psaume 25, verset 12. « Quel est l'homme qui craint l'Éternel ?» Donc, vous voyez, ce respect profond. Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Est-ce que c'est important que Dieu vous montre une voie? Eh oui, c'est important. La paix, par exemple, détermine énormément les choix que nous avons à faire. Parfois, nous, si on n'a pas la crainte, eh bien, on n'a pas la paix. Et si on n'a pas la paix, il est très 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 difficile de faire certains choix. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Deuxième conséquence, son âme reposera dans le bonheur. Ce n'est pas une question d'épreuve. Ce n'est pas une question d'épreuve ou pas d'épreuve. C'est une question d'être heureux même dans l'épreuve. D'ailleurs, c'est le psaume 25. Le psaume 23, vous le connaissez. Il est parlé de cet homme qui est dans la paix, même quand il traverse. Vous voyez, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, etc. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas une question d'épreuve. Le bonheur n'est pas forcément lié aux épreuves. Le bonheur, il est lié à un état d'esprit. Il y a des gens qui, dans les épreuves, je me souviens, quand j'étais entré missionnaire, j'avais lu un compte rendu d'une femme qui travaillait missionnaire en Chine dans des bas-fonds. Elle était dans des bas-fonds, elle était quand les responsables de l'action missionnaire ont vu dans quel état elle travaillait, dans quelle misère elle était, ils ont fait le voyage. Et ils ont été là-bas, dans une ville en Chine, je ne me rappelle plus où c'est, dans un bas-fond. Et ils ont été là-bas, ils ont dit, écoutez, notre sœur, vous n'allez pas rester là, vous vous rendez compte de toutes les épreuves que vous avez, vous risquez votre vie. Et la sœur, elle a dit, mais non, ne laissez-moi là. Dieu m'a conduit là. J'amène des âmes à Dieu. Oui, je suis dans des quartiers difficiles, mais Dieu m'a placé là. Dieu me protège. Mon âme est dans le bonheur. Quel témoignage. Vous ne trouvez pas? Quel témoignage. Et les responsables, ils voulaient la sortir de là pour la mettre dans un quartier un petit peu plus huppé pour son confort. Mais voyez, le fait d'avoir une direction, je ne vous savais pas. Vous ne savez pas où Dieu peut vous conduire. Son âme reposera dans le bonheur. Dissociez-le des épreuves ou des difficultés que nous pouvons rencontrer. Sa postérité possédera le pays. Ça vous intéresse que tous vos enfants soient bénis? C'est quand même la volonté de Dieu. Regardez, verset 14. L'amitié de l'Éternel. Il n'y aurait que ce verset. Franchement. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Moi, je ne sais pas, frères et sœurs, on pourrait faire plusieurs exhortations là-dessus. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que vous savez, c'est une chose de dire « Jésus est mon ami, Jésus est mon ami, Jésus-Christ est mon ami ». On a des cantiques comme ça. Moi, j'aime pas trop chanter ces cantiques-là. Parce qu'on laisse croire aux gens que, eh ben voilà, ils sont chrétiens, Jésus est leur ami. C'est comme quand Jésus dit « Vous êtes mes amis ». C'est autre chose quand c'est Jésus qui le dit. Mais il ajoute « Vous êtes mes amis ». Qu'est-ce qu'il ajoute après? Si vous faites ce que je vous commande. Alors c'est bien, ne me faites pas dire que je pinaille. C'est vrai que Seigneur, tu es mon ami. Mais quand c'est lui qui le dit. Quand c'est lui qui dit oui, l'amitié de l'Éternel, elle est pour une catégorie d'hommes et de femmes, ceux qui ont un saint respect de ma parole. Il ne faut pas s'étonner que Dieu se révèle, que Dieu se soit révélé à des hommes et à des femmes. D'ailleurs, Jésus l'a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Je me ferai connaître à lui. Moi, je crois que nous avons besoin de direction divine. Seigneur, tu peux te faire connaître à moi, vraiment. Est-ce que vous réalisez l'amitié de l'Éternel et pour ceux qui le créent? On pourrait franchement articuler, prendre une direction là-dessus, mais je veux faire un commentaire général. Proverbe 9. Méditez ces textes, parce que peut-être que vous voulez être un ami du Seigneur. Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut envisager, ça? Vous savez, moi, la semaine dernière, je lisais Daniel, parce que Daniel, c'est un homme qui me fascine, moi. Vous savez, il y a des hommes, c'est facile de s'identifier à eux. Vous prenez des hommes comme David, même si c'était des hommes selon le cœur de Dieu, c'est quand même un petit peu plus facile de s'identifier à ces hommes parce qu'ils n'ont fait que des âneries. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc c'est facile de s'identifier à David. Je vous avoue que s'identifier à David, à Daniel, c'est une autre paire de manches. Et Dieu, écoutez bien, cet homme, il est tellement pétri de crainte. Et pourtant, il était en Babylone. Il était, à cause de ses pères, il était en déportation. À 1400 kilomètres, à l'époque, c'était quelque chose de faramineux. Déporté, on a voulu changer son nom, on a voulu lui donner le nom de quelque chose de diabolique. Et lui, il est déterminé. Il prie, et à trois reprises, Dieu envoie un ange. Je ne sais pas si vous réalisez. Dieu envoie un ange sur Gabriel pour lui dire « Tu es un bien-aimé ». Et ce n'était pas sentimental, nous ne jouons pas dans cette cour-là. C'était spirituel. Pourquoi ? Parce qu'il avait la crainte de Dieu. Et nous ne nous rendons pas compte combien dans les églises cette vertu est en train de disparaître au nom de l'amour, au nom de l'unité. Bien sûr qu'il faut de l'amour. Et que s'il n'y a pas l'amour, on peut tomber dans le légalisme. S'il n'y a que la crainte, on peut tomber également dans le légalisme, etc. Mais mes frères et sœurs, est-ce que vous réalisez tout ce qui est attaché à la crainte ? Regardez ce verset, Proverbe 9, verset 10. Vous vous rendez compte, Daniel ? Je suis là, je pense à ça. Est-ce que vous vous rendez compte ? Vous n'aimeriez pas que Dieu vous révèle ? Vous vous rendez compte, qu'est-ce qu'il lui a révélé à Daniel ? Des choses qui concernent quand ? La fin. Vous croyez que si Dieu a révélé il y a 2500 ans ou 600 ans des choses à Daniel, vous croyez qu'il pourrait nous révéler des choses à nous aussi ? Oui. Développons cette crainte. Alors, Proverbe 9, verset 10. J'ai pris ce verset volontairement. Pourquoi ? Parce qu'il est parlé du commencement. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Alléluia. Il y a des choses par lesquelles il faut commencer. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Donc, lorsque quelqu'un développe cet état d'esprit, ce profond respect, il commence à devenir sage. Et dans une église, je crois qu'il n'y a rien de plus beau lorsque les chrétiens sont envahis de ce saint respect qui va les amener obligatoirement à devenir sages. C'est important d'être sage. C'est important. Dieu même nous dit, mais qu'il la demande à Dieu. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne au meilleur, à l'élite de l'église. Non ? C'est pas écrit comme ça ? Qui donne à tous. Et en plus, il ajoute simplement et sans reproche. Parce que nous, on peut se faire des reproches. On peut dire, mais non, mais lui, la sagesse, franchement, il est complètement insensé, ça ne sert à rien. Eh bien, Dieu dit oui. C'est ce que je disais dimanche, c'est que Dieu dit, je fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, Seigneur, je veux commencer à développer une véritable sagesse. Parce que quelqu'un qui craint Dieu donne, on va le voir plus tard, l'honneur à Dieu, la gloire à Dieu, la louange, les actions de grâce. S'il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui est pétri de crainte. Quel bonheur. Comment ça commence, la crainte de l'Éternel ? Parce qu'il faut bien commencer. Alors comment ça commence ? Écoutez bien. Parce que là, on va être dans le pratique vraiment. Un chrétien qui a la crainte de Dieu, c'est quelqu'un qui commence à considérer que ce que Dieu dit est plus important que ce qu'il pense lui. Parce que je peux vous dire, par expérience depuis 35 ans que j'exerce mon ministère, que beaucoup de chrétiens mettent au-dessus de la parole de Dieu ce qu'ils pensent eux. Moi, je pense que Dieu aurait jamais dû créer l'enfer. Voilà moi ce que je pense. C'est pas normal. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire ? Qui on est, nous, pour pouvoir parler comme ça ? C'est un autre débat, mais vous comprenez un petit peu ce que je veux vous dire. Mais qui est l'homme pour se permettre de parler comme ça ? Vous ne croyez pas que si Dieu a créé les cieux et l'enfer, il y a une bonne raison ? Etc, etc. La crainte de Dieu, c'est sérieux, mes frères et sœurs. Je le répète, ce n'est pas une doctrine de l'Ancien Testament, c'est un choix. je choisis, on le voit, on le verra dans d'autres textes, je choisis d'avoir la crainte de Dieu. Je choisis le respect. Je vivrai dans la crainte de l'Éternel. Beaucoup de chrétiens sont légers. Vous savez, moi j'en vois, j'entends de ces choses. Quelle légèreté! Quelle légèreté! Avec les choses de Dieu. Que de chrétiens déjà transgressent, si je ne me trompe pas, le cinquième commandement. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la crainte de l'Éternel. Quand les chrétiens parlent de Dieu comme de leurs petits copains. Nous étions dans une église dernièrement avec une ma femme. Il y a une femme à côté qui a prié, elle priait en pleurant. Seigneur, ça me fait de la peine de vous le dire. Seigneur, tu es mon sauveur, tu es mon copain. Heureusement que je t'ai, tu es mon copain. J'ai failli me lever. Mais comme bon, je n'étais pas dans mon église, ça m'a fait de la peine, tu es mon copain. Voilà exactement. Alors moi, je ne veux pas la critiquer. Parce que c'est peut-être notre faute à nous, les pasteurs. Si les gens sont là. Mais quand on voit les chrétiens qui parlent de Dieu comme de leurs copains, de leur papa, moi je peux vous dire qu'ils ne connaissent pas la crainte de l'Éternel. Quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel se reconnaît à sa piété. 1 Pierre 1, 15 à 17. Vraiment, moi j'aime ce verset, ne le cherchez pas. Conduisez-vous avec crainte le temps de votre séjour sur la terre. Vous avez vu s'il est beau ce verset ? Et croyez-moi, si Dieu le demande, il faut bien comprendre ça. Tout ce que Dieu nous demande, c'est pour nous procurer la paix, la joie et le bonheur. Et c'est le diable avec ses ruses et ses manigances et ses artifices qu'il gère depuis des millénaires qui essaie de nous faire croire que si nous obéissons complètement, eh bien nous n'aurons pas de joie parce que nous allons être obligés de nous détacher des choses du monde. Écoutez-moi mes frères et sœurs, la joie c'est Dieu qui la donne, c'est Jésus qui la donne. Vous vous rendez compte, avant de mourir, non mais il n'y a que notre Seigneur qui pouvait faire ça. Avant de mourir, il a dit aux apôtres, je vous donne ma joie, et une joie parfaite. Il allait mourir, il leur dit, voilà je vous donne ma joie. Parce qu'il y avait une huile de joie au-dessus de tous les collègues, excusez-moi, parce que, enfin, je ne m'excuse pas, c'est le verset qui est utilisé. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une crainte de Dieu dans le cœur de Jésus. Il avait choisi la crainte de l'Éternel, on l'a lu tout à l'heure. La crainte de l'Éternel, c'est le départ. Et mes frères et sœurs, si nous sommes ici, et si nous commençons à dire, mais c'est vrai, je veux me conduire avec crainte, je veux me conduire avec respect, j'ai besoin d'être enseigné, je vois bien que je n'ai pas la crainte de Dieu, je suis très spirituel à l'église, mais quand je vois comment je me comporte avec mes parents, avec mon mari, avec mon épouse, avec les gens de la société, je vois très bien que la crainte de l'Éternel, c'est pas vrai. Eh bien Seigneur, tu vas m'enseigner. Tu vas me faire comprendre les choses. Je vais ouvrir mes oreilles. Je vais essayer de comprendre. Tiens, on va comprendre. Regardez dans 2 Corinthiens 6. Regardez bien. Je ne veux pas être long. Je vais vous donner peut-être une fiche avec plein de versets à méditer. Vous êtes d'accord ? Je vais vous donner une fiche avec une cinquantaine de versets sur la crainte qui tous se complètent. Alors dans 2 Corinthiens au chapitre 6... La crainte de l'Éternel, elle amène vraiment la bénédiction dans le foyer et dans l'église. C'est pour ça qu'il faut qu'on y travaille. Qui ne veut pas que sa famille soit bénie ? Hein ? Vous avez une famille ? Vous voulez qu'elle soit bénie ? Vous avez une église, je suppose, puisque ce soir vous y êtes dedans. Est-ce que vous voulez qu'elle soit bénie ? Eh bien, commençons comme ça. C'est le départ. 2 Corinthiens, chapitre 7. Oui, on va lire le verset 1 et le chapitre 7. Vous allez voir. 2 Corinthiens chapitre 6. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. 2 Corinthiens 6, verset 11. Regardez bien, on va lire jusqu'au chapitre 7, verset 1er. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous voyez, c'est ça, la grâce, ça élargit, il y a un épanouissement. Vous savez, quand on dit on s'éclate, vous voyez, c'est un peu ça en fin de compte. Notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit. C'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez aussi votre cœur. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Dimanche, je vous parlerai peut-être d'Halloween. Il y a des chrétiens qui fêtent Halloween. Est-ce que vous le savez? Il y a des chrétiens qui fêtent Halloween. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Pardon. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. Regardez la promesse. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Qui veut que Dieu habite et marche au milieu de nous? Tous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous de les seigneurs, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Maintenant, après toutes ces promesses, regardez ce que le conseil. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Vous avez vu tout ce texte et se conclut par une invitation, une exhortation, un commandement, achever, continuer, poursuivre notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et le problème s'aggrave, c'est un cercle vicieux. Le problème s'aggrave si Dieu n'agit pas. Si Dieu n'agit pas, nous nous permettons justement de transgresser sa parole. Plus Dieu agit, entre guillemets, plus c'est facile d'entretenir la crainte. Moins Dieu agit, plus les gens sont légers. Regardez avec moi dans l'Exode au chapitre 20. Vous le comprendrez, je vais vous donner plusieurs exemples. Je le retourne, mais je pense que c'est un sujet sur lequel il faut que j'insiste. Exode 20. Alors, vous lirez le contexte. Il y a les commandements qui sont donnés. Dieu donne les commandements. Alors, on va lire à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. Ou 21, ça suffit, oui. Alors, Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. » Ah, eux, ils voulaient le miel, le lait, et Dieu voulait le leur donner. Mais regardez, avant. « Ne vous effrayez pas, c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Pourquoi ? C'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux. » Vous avez vu? Avant le pays de la promesse, Dieu voulait leur enseigner quelque chose. Il l'a fait au travers des épreuves pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, virgule, dans quel but? Afin que vous ne péchiez pas. Verset 21, regardez le comportement des uns et le comportement d'un autre. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Vous voyez, alors ça, il faut le méditer peut-être. Mais regardez, Dieu dit, voilà, mais je veux d'abord vous mettre à l'épreuve pour que vous ayez la crainte, parce que je ne veux pas que vous péchiez. Le résultat, c'est que le peuple s'est éloigné, et il n'y a que Moïse qui, connaissant Dieu, a eu à cœur de s'approcher. Et voyez, mes frères et sœurs, c'est pas une doctrine, ça, de l'Ancien Testament, le fait de s'éloigner de lui ou de s'approcher. D'ailleurs, regardez dans Exode, Hébreux, chapitre 12, pour vous montrer que c'est pas une doctrine de l'Ancien Testament, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on entend. Oh, mais la crainte, c'était l'Ancien Testament. Et oui, c'est que le problème, il faut lire la Bible. Hébreux 12, verset 28. Ça vaut la peine de prendre une... Moi, tout ça, je l'ai fait avec une concordance. Je ne l'ai pas fait, vous voyez, avec beaucoup de complications. Hein, une concordance. En plus, si vous lisez bien le contexte, c'est que Dieu ne nous parle pas du Sinaï. Dieu, comme pour le texte que je viens de prendre, Dieu nous parle par sa parole, comme c'est le cas ce soir, dans sa grâce. Et regardez bien, Hébreux 12, 28... C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Car s'il est dit au verset 6 que Dieu est un Dieu d'amour, là au verset 29, il est dit car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc, d'un autre côté, il y a l'amour de Dieu qui se manifeste et qui ne veut pas que l'on pêche en nous éprouvant plusieurs fois de suite s'il le faut pour que nous ayons la crainte, ça nous empêchera de pécher. Vous savez, moi j'ai posé des questions à Dieu par rapport à toutes les chutes de certains serviteurs de Dieu. On en reparlera la prochaine fois parce que je vois que l'heure retourne. On y reviendra parce que je ne l'oublierai pas. Mais vous verrez dans l'Ecclésiaste en particulier que beaucoup d'hommes ont chuté pour la raison qu'ils n'avaient pas la crainte de Dieu. C'est écrit, hein, c'est pas moi qui l'invente. Et là, vous avez cet équilibre. Oui, Dieu est plein d'amour, mais notre Dieu est aussi un feu dévorant. Pourquoi ? Parce qu'il doit y avoir cette crainte respectueuse. Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. D'ailleurs, c'est dans le verset 8 du chapitre 13. Et la grâce de Dieu nous enseigne à vivre selon cette piété et cette crainte. C'est écrit dans Tite chapitre 2, verset 11. L'amour de Dieu est important. On a besoin d'amour. On a vraiment besoin d'amour. Est-ce que c'est important que vous ayez de l'amour ? Est-ce que vous vous sentez aimé de Dieu ? Vous savez ou vous vous sentez aimé de Dieu ? Vous savez aimer ? C'est important. On a besoin d'amour, c'est indispensable, c'est nécessaire. Si nous ne recevons pas d'amour, c'est une affaire qu'il faut régler. Paul disait, l'amour de Christ me presse. Et le mot pressé, parce qu'il y a des mots comme ça, vaut la peine de les étudier dans l'original, le mot pressé, ça veut dire qu'il était tellement entouré qu'il était, il pouvait pas s'échapper de l'amour de Dieu. C'est ça que ça veut dire, c'est magnifique. Si on parle que de l'amour de Dieu, et il faut en parler, on ne présente qu'une partie de la vérité. Et c'est pour ça que Dieu ne bénit pas. Il faut présenter les deux. Quand on prêche sur le ciel, il faut aussi prêcher sur l'enfer, etc. On prêche sur la lumière, il faut prêcher sur les ténèbres. Dieu bénit que sa parole. Si nous n'apprenons pas la crainte de l'Éternel, comme on l'a vu surtout au début, si elle ne nous est pas enseignée, nous ne comprendrons pas, nous n'aurons pas la connaissance de Dieu et nous ne ferons pas des progrès et nous deviendrons familiers avec les choses de Dieu, ce que nous voyons plusieurs fois dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, il ne devient pas familier avec Dieu. Regardez Joseph, il n'avait que 17 ans. 17 ans il avait. Il a été amené, au travers de ses changes, à susciter la haine dans le cœur de ses frères. Son frère a très 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 mal réagi, et vous savez ce qui s'est passé. Ils l'ont tabassé, ils l'ont jeté dans une citerne, puis après ils ont regretté, ils ont vu une caravane qui passait par hasard, et ils l'ont vendu comme un esclave, il est parti à l'étranger, etc., etc., etc. Vous savez ce qui s'est passé. Il s'est retrouvé dans esclave chez Potiphar. Qu'est-ce qu'il nous est dit ? Est-ce que vous savez ce qu'il nous... L'Éternel était avec lui. Il va avoir la crainte de Dieu lorsque la femme de Potiphar va lui faire des avances. Vous connaissez cette affaire ? Lui, il va démontrer sa crainte de Dieu. Sa crainte de Dieu va l'amener en prison pendant des années. C'est la crainte de Dieu. Il connaissait Dieu. Mais une chose est sûre, et c'est ça que je veux que vous compreniez, que nous comprenions, c'est que malgré la prison, Dieu était avec lui. Ce qui est important, c'est pas que nous soyons dans les verts pâturages, bien sûr c'est mieux qu'être dans une épreuve. Ce qui est important, c'est que dans les verts pâturages et dans le désert, Dieu soit avec nous. David était dans le désert, il disait, je cherche l'Éternel. Il a bien fait ou non? Il y a 9 personnes sur 10, quand elles sont dans le désert, elles rétrogradent. David dans le désert, il dit, non, je cherche l'Éternel. Joseph a fait la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la crainte de Dieu, malgré leurs erreurs. Nous ne devons pas être familiers avec les choses de Dieu. Travaillez à votre salut. Philippiens 2:12, c'est un travail, c'est ce qu'on fait. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. C'est pas avec peur et couardise. C'est pas ça. C'est avec crainte. J'ai un respect. C'est Dieu. Il m'autorise à lui parler. Il m'autorise à le connaître. Voyez quand il est dit dans Romains 11:22. Et je termine avec ça. Je termine, considère donc, alors on va le lire ce verset, on va le lire pour terminer. J'aimerais que nous soyons des chrétiens équilibrés. Notre monde est complètement déstabilisé, enténébré, il est endoctriné par des fausses doctrines, etc. Et Dieu lui veut faire de nous des chrétiens équilibrés. Romains 11, verset 22. C'est un verset qui est très important. Un chrétien, il saisit ces choses. Regardez bien, Romains 11, verset 22. Considérer, c'est pas juste vous regarder rapidement. Considérer, c'est prendre du temps. C'est prendre du temps, ce que vous pouvez faire chez vous. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Vous êtes d'accord avec ce verset? Est-ce que c'est pas comme ça qu'on apprend la sagesse, au fait? Qu'on comprend la parole de Dieu? Si on ne considère que la sévérité, si un pasteur ne parlait que de la sévérité de Dieu, eh bien on tomberait tous dans le légalisme, c'est sûr. Si on ne considère que la bonté de Dieu, on va tomber dans le laxisme. Il faut considérer les deux. La bonté de Dieu, dit le Paul, aux Romains d'ailleurs, la bonté de Dieu nous pousse à quoi? À la repentance. Vous voyez? C'est dans Romains aussi. La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. La bonté de Dieu, ça ne nous pousse pas au laxisme. Il y a des gens, ah ben moi Dieu est bon, je fais ce que je veux. Non, non, non. La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Et la crainte de Dieu, la sévérité de Dieu nous empêche de pécher. Vous vous rappelez ce que j'ai lu dans l'Exode? Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel afin que vous ne péchiez pas. C'est pour ça que j'ai commencé avec le témoignage de ce pasteur qui avait été emprisonné et qui a répondu, mais non, j'ai jamais abandonné l'amour de Dieu, je n'ai jamais eu la crainte de l'Éternel. Alors mes frères et sœurs, il faut que l'on sache ces choses. Moi je pense qu'on va prier dans la semaine pour que Dieu nous conduise à compléter cette étude. Vous êtes d'accord? Moi, je crois que c'est un sujet qu'il faut développer dans nos églises. Je vais prier, je pense que vraiment Dieu choisit des hommes ou des églises parce qu'elles ont la crainte de Dieu. Dieu a choisi Joseph, franchement, c'est sûr, parce qu'il avait la crainte de Dieu. Et quand on n'a pas la crainte de Dieu, Dieu nous éprouve, comme les Hébreux, dans l'Exode, vous savez, Moïse était sur la montagne, vous vous rappelez qu'il a tardé à descendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a permis que Moïse reste longtemps sur la montagne et au bout de quelques jours, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il fait ce Moïse? Qu'est-ce qu'il fait? Dieu les a éprouvés. Quand Dieu ne parle pas, quand Dieu n'agit pas, et comme Dieu est resté silencieux, c'est ce qui se passe dans les épreuves quand Dieu n'intervient pas, quand Dieu reste silencieux, notre nature se révèle. Et qu'est-ce qu'a fait Aaron? Vous vous rappelez ce qu'il a fait Aaron? Il leur a donné une idole. Aaron ne craignait pas Dieu. Donc, il avait peur des gens. Donc, il leur a donné ce qu'il voulait. Et quand on craint l'homme, on ne lui donne pas ce dont il a besoin. On lui donne ce qui lui fait plaisir. Et dans une église, on n'est pas là pour faire plaisir aux gens, même s'il y a beaucoup de plaisir dans la grâce de Dieu, c'est certain. Dans l'église, on répond aux besoins des gens. Et Aaron a eu la crainte du peuple. Et le peuple s'est révélé. Et si Dieu ne vous a pas parlé depuis longtemps, ce qui peut arriver, parce que Dieu nous éprouve, si Dieu ne vous a pas parlé depuis longtemps, eh bien, ça va lui servir pour voir si vous avez la crainte de Dieu. Ah, moi, ça fait des mois que Dieu ne m'a pas exaucé, moi, j'en vois tout balader. Moi, je l'ai entendu, certainement trop. Mes frères et sœurs, si Dieu ne vous a pas exaucé, continuez à développer la crainte de l'Éternel. Seigneur, je te respecterai. Je ne céderai pas à la pression. Je continuerai à t'offrir un culte. Parce que le culte, ce n'est pas le dimanche matin, hein, dans la Bible. Nous, on appelle la réunion du dimanche matin le culte. Mais un culte, c'est une vie. Vous comprenez? Un culte qui est agréable à Dieu, ce n'est pas de 9h30 à 11h30, c'est le culte. Non, non, dans la Bible, le culte, c'est une vie entière qui est offerte à Dieu. Vous le comprenez bien? Venez, dit le Seigneur. Et je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Et croyez-moi, lorsqu'on passera une soirée entière, je le ferai parce que ça ne sera que du plaisir, on va voir toutes les faveurs qui sont rattachées à cette affaire. Celui qui a la crainte de l'Éternel, toutes les bénédictions qui reposent sur lui. Ça vous intéresse les bénédictions? Eh bien, on le fera. Et croyez-moi, ce sont des choses sérieuses. Si Dieu le dit, il le fait. Prions le Seigneur, mes frères et sœurs. Prions le Seigneur. On est devant Dieu. La prière est un immense bienfait. Pouvoir, je ne sais pas si on le réalise, pouvoir parler à Dieu. Je ne sais pas si on est conscient de l'honneur qui nous est fait quand tu pries. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Vous vous rendez compte? Quel honneur! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut demander à Dieu, « Seigneur, enseigne-moi la sagesse. Je veux comprendre la sagesse. » Parce que beaucoup de bénédictions y sont rattachées. Et parce que je veux glorifier ton nom. Et je ne veux pas terminer en étant dans le péché. Je veux terminer en étant dans la sainteté.